Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between.
Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité. Mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de quatre petites filles qui ont la chance d'avoir deux mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 26 de la saison 4. Cela fait 8 ans que je recherche ce témoignage, qui ne s'adresse au final qu'à très peu de personnes, mais qui est essentiel quand on se retrouve confronté à cette décision. Voilà 8 ans que j'ai poncé Google et tous les forums pour savoir quel choix nous allions faire, pas celui des médecins, pas celui de nos proches, pas celui des réseaux et des forums, mais bien le nôtre, celui qui nous correspondait, celui qu'on devrait assumer notre vie entière. Comme je le dis au début de l'épisode, l'histoire de Claire est connue de tous, elle fait le tour des groupes Facebook autour de la PMA et de la parentalité solo, comme une légende urbaine, une légende numérique. Claire est cette future maman solo qui est passée par une PMA clandestine chez cette fameuse gynéco lyonnaise. Elle est tombée enceinte presque immédiatement de ses grossesses qui elles aussi sont légendaires. À 7 semaines d'aménorrhée, elle découvre qu'elle est enceinte de triplé et prend assez rapidement la décision de faire une réduction embryonnaire. Ce choix, elle l'assume pleinement. Des triplés en solo, c'était inenvisageable. Dans cet épisode, Claire vous raconte son parcours, les doutes qui l'ont jalonné, les choix qui se sont imposés à elle, la procédure de réduction embryonnaire, ainsi que tout le questionnement qu'elle engendre. Aujourd'hui, elle est l'heureuse maman solo de jumeaux. Je profite de ce temps que j'ai avec vous, juste avant l'épisode, pour vous annoncer une nouveauté dans le support que vous pouvez apporter au podcast. Voilà maintenant 3 ans que je vous propose chaque semaine du contenu inédit qui permet de visibiliser notre communauté et vous permet à vous de faire des choix éclairés. J'ai à cœur que l'accès aux épisodes reste gratuit pour qu'ils soient accessibles à tous. Mais vous me demandez souvent comment soutenir mon travail. J'ai aujourd'hui une proposition supplémentaire à vous faire qui répond à vos propositions. Vous pouvez désormais soutenir financièrement le podcast sur ma page Tidi, dont vous trouverez le lien en bio sur le compte Instagram du podcast @lesenfantsvontbienpodcast. Je vous en reparle plus en détail tout à l'heure. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Claire.
Bonjour Constance.
Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible, comme je te le disais, hors micro. Ton histoire, je crois qu'elle circule dans tous les... Alors, je ne vais pas dire les bas-fonds, c'est pas ça, tu vois, mais vraiment, c'est une légende urbaine. Un peu. Tout le monde a entendu parler un petit peu de ce qui t'est arrivé et quand tu cherches un peu à faire de la PMA artisanale, on va dire. Alors, je ne sais pas si on peut dire PMA artisanale, mais c'est ça, en clandestine. On a tous entendu parler de ton histoire et je suis vraiment ravie que tu aies décidé de bien vouloir témoigner parce que je crois que c'est important de parler de ce qui t'est arrivé et de parler aussi des choix que tu as dû faire liés à ce qui t'est arrivé dans cette PMA clandestine. J'en dis pas plus. J'en ai déjà dit beaucoup. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter?
Alors, moi, c'est Claire, j'ai 34 ans et effectivement, j'ai fait une PMA clandestine peu de temps avant que la loi, en fait, passe et en sachant qu'elle allait passer, mais moi, je ne voulais pas attendre. Et y a eu quelques couacs, on peut dire ça, qui ont eu quand même des conséquences. Et je te remercie de parler de ça, parce qu'aujourd'hui, même si la loi est passée et qu'on a théoriquement accès légalement, on est encore beaucoup à passer par ce chemin-là, parce que les lois elles sont encore mal foutues, et elles donnent pas accès à tous, et voilà.
Alors, je vais faire un petit aparté, parce que le dernier épisode que j'ai sorti, donc, et qui était d'ailleurs le premier sur la PMA clandestine, c'est un sujet qui est extrêmement clivant, et j'avais eu énormément de messages me disant « oui, mais ça peut bien se passer, oui, mais ça peut bien se passer, oui, mais ça peut bien se passer ». J'en avais eu aussi qui me disaient « moi, ça s'est passé pareil, hein. J'entends, je suis tout à fait d'accord, ça peut bien se passer, mais ça peut aussi ne pas bien se passer, et là… » Il est important qu'on parle des conséquences que peuvent avoir les pratiques de certains gynécos. Je ne parle pas de tous, je parle essentiellement d'une, qui est la même que pour le premier épisode qu'on a enregistré. Et donc, le projet, c'est surtout que vous compreniez que c'est important de se faire confiance. Si ça ne vous paraît pas cohérent, on arrête, on change de personne.
C'est ça. Et puis... on a beau dire, oui, ça peut bien se passer, à un moment donné, c'est la même chose que, comment elle s'appelle, cette sage-femme qui a fait un documentaire il n'y a pas si longtemps et qui a vécu, en fait, les avortements clandestins, qui expliquait très bien que, en fait, tant qu'on prive les femmes le droit sur leur corps, finalement, on en est là, on aura toujours des trucs clandestins et qui engendreront des catastrophes et des femmes qui ont fait le choix de mourir plutôt que d'avoir un enfant. Il y en a plein. Et c'est grâce à la loi qui est passée qu'il y a beaucoup moins de femmes qui meurent à cause de ça. Et c'est même chose pour l'accès à la PMA, en fait. C'est à un moment donné, laissez-nous le choix de faire ce qu'on veut de nos corps et on fera sauter ce réseau clandestin, quoi.
Bien sûr. Mais tu sais que c'est là où, en fait, je pense qu'il y a un manque d'informations flagrant et même de prise de renseignement de la part du gouvernement, j'aurais tendance à dire, c'est qu'ils ont été extrêmement surpris, et là ils le sont actuellement, hein. D'ailleurs, on n'a pas encore reçu toutes les stats, mais je pense que ça va pas tarder de la part de l'Agence de la biomédecine, mais en fait, la majorité des demandes de PMA actuellement, c'est pas des couples de femmes, ce sont des femmes seules, et ils ne l'avaient pas anticipé.
C'est un délire.
Ouais.
C'est un délire.
Alors que ces réseaux clandestins, on sait qu'ils existent.
Ah, mais et puis je pense que le gouvernement le sait très bien et depuis très longtemps. Moi, j'aime bien le parallèle, c'est comme la prostitution en France. Elle est interdite, mais elle est partout, en fait. Tu la vois de partout et le gouvernement ne fait absolument rien pour stopper ça, alors qu'il le sait, quoi.
Ah oui, complètement. C'est un parallèle qui est intéressant. Du coup, est-ce que tu peux me raconter, en fait, parce que ton projet, donc, il est effectivement de devenir maman solo. Donc, toi, pour préciser ton orientation sexuelle, tu es hétérosexuelle. Et ça. Tu as fait ce choix de devenir maman solo. Comment tu y as réfléchi? Est-ce que c'est un choix qui est arrivé sur le tas ou est-ce que c'est un choix qui était bien anticipé et que tu as réfléchi dès ton adolescence, peut-être presque?
Alors, je pense que j'ai pas voulu d'enfant jusqu'à 24 ans. J'étais ferme là-dessus, je ne voulais pas d'enfants. Je pense que j'ai jamais trop adhéré au schéma de la famille nucléaire, tout ça.
Ouais.
Et puis, je suis tombée enceinte de mon petit copain de l'époque. Mmh. Et c'était pas une relation qui était partie pour être très stable. Et j'ai fait le choix d'avorter. Mmh. Et donc, j'ai pris une première fois les médicaments. Et en fait, un mois plus tard, j'avais un contrôle pour vérifier que que tout était parti, etc. Et le médecin m'a gentiment annoncé que j'étais toujours enceinte, que j'avais toujours le fœtus au creux de mon ventre. Et ça a été un peu le choc, parce qu'il ne m'a pas tout de suite dit qu'il était mort. Moi, je croyais que j'étais encore enceinte et donc hors délai. Donc un peu la panique. Et du coup, j'ai dû reprendre des médicaments. Et là, effectivement, j'ai fini par tout évacuer. Et c'est là qu'il s'est passé un truc dans mon cerveau. Je ne sais pas quoi. Et en fait, ça a été horrible. Et je me suis dit que j'avais fait la pire erreur de ma vie et que j'aurais dû garder cet enfant et je voulais devenir mère. Et depuis que j'ai 24 ans, c'est une obsession.
Voilà. Ouais, la prise de conscience a été brutale, quoi.
Un peu.
Oui. Ok. C'est vrai que je sais. Après, moi, je suis pas passée par là parce que moi, je suis en couple avec des femmes depuis très longtemps. Donc, étonnamment, ça ne peut pas trop nous arriver. Sinon, on n'en serait pas là et ce podcast n'existerait pas. Non. Mais clairement, je sais que souvent, l'avortement est révélateur de pas mal de choses. Que ce soit lié à la maternité ou pas, d'ailleurs. Mais toujours est-il que c'est un moment d'une vie où on rentre dans une réflexion qui est moins légère, quoi. Qui est beaucoup moins légère.
Ouais, c'est ça. Ça te fait rentrer dans une réalité un peu alternative où tout devient différent, en fait. Enfin, voilà. Et donc, suite à ça, eh ben, l'obsession a commencé. Et, et j'ai jamais eu des grandes relations. J'ai eu quelques copains. Pour une raison que j'ignore, ça s'est jamais fait. Ils étaient toujours un peu bancals. Et en fait, l'opportunité entre guillemets de devenir mère avec l'un d'eux s'est jamais tellement présentée. Mm-hmm. Ça n'a jamais empêché que c'est pas bien, mais j'ai toujours voulu des rapports non protégés pour espérer tomber enceinte. Même avec le pire des connards, j'avais cette obsession. Et grand bien m'en fasse, ça n'est pas arrivé.
Oui, mais après, enfin, tu vois, enfin, quand t'es obsédé par quelque chose, tant que tu n'as pas réalisé le truc, enfin, ça reste. Et oui, je comprends du coup que tous les moyens sont bons en fait pour y arriver.
Ouais. C'est ça.
Maintenant, est-ce que dans cette projection-là, tu aurais informé du coup le père, ou est-ce que tu te voyais déjà élever l'enfant seul?
Alors, je pense que j'aurais informé. Mais en disant bien, je te demande rien. Et du coup, j'envisageais complètement de me passer d'eux, quoi.
En fait, quelque part, ce projet de maternité solo, il était certes pas dans la méthode, c'était pas le même projet, mais il était déjà réfléchi et mûri.
Ben ça, en tout cas, je pense que mon inconscient était prêt à ça. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas d'intention pure et dure de finir... Enfin, avec un enfant de quelqu'un seul, je pense qu'effectivement, il y avait déjà ce truc au fond de moi de j'ai pas besoin d'un mec pour élever un enfant, en fait.
Ouais.
Et c'est bancal.
Particulièrement, c'est bancal. Ouais. Et cette prise de conscience, elle est presque liée à ton avortement, en fait. J'ai l'impression que la prise de conscience que tu as eue, c'est je veux un enfant, mais enfin, moi et l'enfant, quoi. Il n'y avait pas de tierce personne, quoi.
Pas vraiment.
Et alors, du coup, quand est-ce que... Enfin, bon, a priori, tu n'es pas retombée enceinte. C'est un a priori, mais bon.
Ouais, non, je suis jamais retombée enceinte.
Et alors, à quel moment tu t'es interrogée et informée autour de la PMA?
Alors, un peu plus tard. Alors, moi, j'ai le souvenir, je devais avoir 27-28 ans. J'ai le souvenir d'aller me promener dans le parc avec mes chiens et de me poser sur un banc, d'appeler ma mère et de lui dire « Maman, si à 32 ans, j'ai toujours pas de mec, pas de perspective de faire un enfant, je ferai un enfant par quelque moyen que ce soit. Je sais pas comment, mais je le ferai. » Et ça a été lancé comme ça, et je pense que je me suis même pas trop informée à ce moment-là. Mais je crois que j'y ai pas tellement réfléchi avant. C'est quand j'ai eu 32 ans, quelques temps après, je me suis dit « Mais attends, j'ai 32 ans ?» J'avais dit à 32 ans. Bon bah c'est parti, il faut que je me lance dans mes recherches. Et c'est là que j'ai commencé à chercher comment faire un enfant, en fait. Ma première idée, ça a été coparentalité. Je pense que c'est les premiers trucs sur lesquels je suis tombée.
Ouais.
Et ça me semblait pas trop con, parce que malgré tout, c'est cool si t'as quelqu'un qui t'aide à élever ton enfant. Ouais. Et sauf qu'en fait, ça a pas mis longtemps avant que je me rende compte qu'avant de trouver quelqu'un en coparentalité, qui tienne la route, qui ait mes valeurs,
C'est pas simple.
Ah, ça, je pense que c'est hyper complexe.
Oui.
Hyper complexe.
Ouais, c'est complexe parce que tu deviens un couple de parents. Donc, tu te lies à quelqu'un à vie.
C'est ça.
Et quand tu connais la personne et que le deal, enfin voilà, tu vois que les valeurs, elles sont déjà partagées, tout ça. Mais quand tu connais pas et que en genre 2 mois de temps, tu dois valider oui, ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est pas ok, c'est pas la même histoire, quoi.
Ah, mais c'est clair. C'est clair. Je pense que c'est plus complexe de créer une coparentalité que de juste faire un enfant avec quelqu'un avec qui t'es depuis 10 ans, quoi. tu te poses vachement plus de questions.
Exactement. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, ah, bon, après, ça aussi, ça lève aussi certaines questions de rapport au couple, à l'enfant, de séparation potentielle. Enfin, tu vois, il y a des choses aussi qui se lèvent. Mais bon.
C'est ça.
Voilà, c'est des réflexions à mener, en fait.
C'est ça.
Et alors, donc, la coparentalité, tu t'es dit non.
C'est ça.
Et qu'est-ce que tu as trouvé comme autre option ?
L'autre option, ça a été trouver quelqu'un qui veut me faire un enfant sans parentalité derrière.
D'accord, donc un donneur.
Voilà, mais un donneur connu.
Connu.
Et en fait, j'ai réfléchi, j'ai trouvé un copain à moi. Et un soir, un peu éméché, je lui en parle. Et il me dit, ok, banco. Ok. Oh,
cool.
sauf que... alors, lui était déjà papa et voulait pas du tout... redevenir papa. Mais en fait, très rapidement derrière, j'ai essayé de le recontacter pour en discuter, pour quand même voilà, en reparler de façon claire. Et puis, il me répondait pas trop. Et puis, bon, tu vois, il y a eu un peu une espèce de latence là où je me suis dit, non, mais en fait, si t'es même pas sérieux sur ce point-là, on va jamais y arriver. Même si tu deviendras pas le papa, si même pour pour l'insémination pure, tu me réponds pas quand je t'appelle, on va faire comment, en fait?
C'est ça, c'est compliqué.
Donc là, je me suis dit, non, bon, c'est pas la bonne solution non plus. Et là, j'ai pensé à un autre copain qui est homosexuel. Et donc, on a reparlé coparentalité. Et c'est un copain avec qui j'ai des valeurs communes, avec qui je m'entends très bien. Et en fait, il me dit, vas-y, je suis chaud, grave. Il était en fin de relation avec son mec de l'époque. Et en fait, ça a tout complexifié. Et puis, on en parlait, je l'appelais, on en parlait. Il disait, mais détends-toi, enfin, il n'y a pas d'urgence. Ben oui, mais bon, moi, j'ai 32 ans, je veux avancer dans le projet, quoi. Et c'est pas en en parlant une fois tous les 6 mois qu'on va avancer. Et donc, j'ai pris rendez-vous chez une première gynéco pour faire un premier examen, parce que j'avais compris qu'il fallait faire des examens, etc. Donc, je l'appelle et puis je lui dis. Il me dit, mais non, mais Claire, attends, on a des trucs à régler tous les deux. Avant de faire un enfant, il faut qu'on règle nos trucs perso. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, t'as pas compris. Moi, c'est maintenant que je veux un enfant.
C'est ça. Ça fait 6 ans que j'y réfléchis.
Non, mais c'est ça. Ça fait des années que j'y pense. Je vais pas attendre de faire 10 ans de psychothérapie pour... Et puis, t'es qui pour me dire que j'ai besoin de travailler sur moi-même, en fait. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, vous me saoulez, les mecs. Je vais faire ça sans vous. Et je pense que c'est à peu près à ce moment-là que j'ai trouvé le groupe Facebook de Maman Solo et le groupe Krios. Et là, j'ai halluciné. J'ai halluciné. Je suis allée sur le site de Krios et j'ai vu qu'il y avait un catalogue de mecs qui donnaient leur sperme. Et ouais, et tout est parti de là. Et c'est devenu clair, en fait. C'était, je le ferai toute seule et je vais trouver les solutions pour le faire toute seule.
Ouais. Et tu les avais, les solutions. Puisque,
et ben là, ouais, donner sur un plateau, quoi.
C'est ça, exactement. Enfin, tu n'avais plus qu'à faire ton choix et à trouver la gynéco. Ou la gynéco. Parce que tu n'avais pas envisagé, par contre, une PMA à l'étranger.
Je l'ai très vite exclue parce que, financièrement déjà, quand j'étais dans la région lyonnaise, quel que soit le pays où je voulais aller, c'est beaucoup d'heures de route. Et tu dis, putain, j'ai très vite lu les témoignages de toutes les nanas. Moi, me taper 8 heures de route tous les deux jours pour aller faire les examens, faire l'insémination, enfin... Il y a des nanas qui font ça pendant des années, mais voilà, moi ça me paraissait compliqué. Et en fait, très vite, j'ai compris qu'il y avait la PMA clandestine et qu'il y avait des gynécos qui acceptaient de faire venir les cuves de sperme dans leur cabinet pour que ça se passe en France. Et quand j'ai vu qu'il y avait une gynéco à 40 minutes de chez moi, autant te dire que...
T'as pris le téléphone.
J'ai pris le téléphone et j'avais rendez-vous une semaine après.
Dingue. Je vais juste faire une parenthèse par rapport au fait que à l'époque ça s'appelait PMA clandestine. Maintenant, c'est en cours de validation et d'organisation, mais certains cabinets gynéco commencent à faire des tests et à avoir le droit de pratiquer de la PMA. Ouais. Et à pratiquer de la PMA. Alors c'est en phase de test hein, encore, mais globalement, les sécos étant surchargés, ils devraient à terme. Je ne sais pas à quel terme, mais moyen terme, on va dire, ouvrir la PMA à certains cabinets gynéco.
Ah ouais, et en accord, en faisant venir...
Non, avec des donneurs français. En récupérant dans les sécos les dons, en fait.
Ok.
Voilà. Donc, bon, après, je veux pas vendre du rêve. Je sais que je sais que certaines sont déjà en parcours via des cabinets test. Donc, voilà.
Bon, ça avance un petit peu.
Ça avance. Bon, après, attention, c'est pas légiféré. Enfin, si, c'est légiféré, mais c'est pas encore. Enfin, c'est un test, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça, c'est le test.
C'est pour, voilà. Donc, je referme cette parenthèse. À l'époque, ça s'appelait donc bien une PMA clandestine. Et donc, tu as rendez-vous une semaine après. Enfin, ce numéro, il passe un peu de la main à la main. T'avais eu des échos autour de cette gynéco ou pas du tout?
Alors, effectivement, j'ai mis un... J'aurais dû regarder, tiens, pour savoir quel était mon premier message sur ce groupe. Mais je pense que j'ai fait un message en demandant les coordonnées de cette gynéco de Lyon dont on parle. Et... On m'a dit, faut demander à Krios, c'est Krios qui envoie les coordonnées.
Ah, c'est vrai.
Mais en parallèle, j'ai reçu des MP, des messengers là, avec les contacts.
Oui. Ça se donne pas sur le forum, mais ça se donne c'est ça. En privé.
En gros, le jour où j'ai appris ça, j'avais les contacts de la gynéco, quoi. Donc,
ouais.
C'est aussi hyper facile.
Oui. Et donc, en fait, tu n'as pas eu à faire ta sélection de donneurs et à passer par Krios pour pouvoir avoir ton rendez-vous. Tu as pu aller plus vite, quoi.
C'est ça.
Et donc du coup, est-ce que tu avais eu des retours sur cette gynéco déjà ou pas du tout?
Pas à ce moment-là.
D'accord.
Parce que j'avais pas fouiné non plus que ça.
Oui.
Là, j'étais droite dans mon projet, là, c'est par là. Rendez-vous gynéco, on y va.
Et puis encore une fois, il y a des personnes avec qui cette gynéco, ça se passe bien, et puis des qui ça se passe pas bien. Donc bon,
oui.
Voilà, c'est comme ça. On va avancer sur ton histoire. Et alors, ce premier rendez-vous?
Tout de suite, je me rends compte qu'elle est spéciale, quand même. Elle est très particulière. Il faisait hyper froid dans son cabinet, parce que tu comprends, c'était un peu le Covid. Et attends, c'était donc 2020. Ça devait être février, mars 2020, comme ça. Et elle ouvrait tout le temps les fenêtres, mais en portant le masque sous le nez, hein. Mais faut ouvrir les fenêtres parce que les gens, ils sont stressés avec le Covid. D'accord? Certes.
Mais il fait moins deux, là.
mais il fait un peu moins deux dans ton cabinet quand même, meuf. Et puis, très vite, en fait, je me suis rendu compte du personnage, c'est-à-dire que elle se gênait pas pour me parler des gens qu'elle recevait.
Ouais.
Et de porter des jugements, en fait, clairement. Un tel, n'importe quoi, leur histoire, c'est du grand délire. Là, tu te dis, ok, donc, va falloir faire avec ça. et en fait, finalement, elle m'a prescrit des examens, notamment l'hystérosalpingographie. Ce doux examen où on te projette du produit dans les, dans l'utérus pour que ça parte dans les trompes, ça fait hyper mal. Alors, tant mieux pour celles qui ont rien senti, mais moi, j'ai bien jonglé. Et jusque-là, j'étais dans un projet d'accouchement physio, tout ça. Et là, je dis, mais attendez, les contractions, ça va être ce genre de truc. Ouais. Bon, non, c'est fini, l'accouchement physio, je ne veux plus en entendre parler.
Bref. Et t'es sous hormones, hein, pendant un accouchement.
Non, mais...
Ça change tout, hein.
Ouais.
Allez,
mais... j'ai flippé sur l'instant.
Ah bah oui, je comprends.
Je me suis dit, mais mon Dieu, mais dans quoi je me lance?
Ouais.
Voilà, et du coup, l'hystéro, plus examen sanguin à un certain moment du cycle. Et j'avais re-rendez-vous avec elle quelque chose comme 15 jours après, en fait. Enfin, j'ai dû la rappeler une fois que j'avais tous les examens. Et tout était nickel chez moi. Donc, littéralement, j'étais dans toutes les normes qu'on peut avoir. Tout allait très, très bien. Et donc, elle a commencé à me dire, ok, tout va très bien. Maintenant, est-ce que vous voulez une stimulation ou pas?
Ah, c'est pas elle qui te... Elle te demande, en fait.
En gros, elle me demande, mais elle me dit, oui, si vous voulez que ça booste un peu, effectivement, une stimulation, ça aide un peu, vous aurez quand même plus de chance. Banco, moi, j'ai pas 10 000 euros à passer dans une... Dans ma PMA, vas-y, je la fais la stimulation, quoi. Si tu me dis que ça va augmenter mes chances. Voilà. L'erreur était là.
En fait, tout dépend de la stimulation. Et tout dépend de la surveillance de la stimulation.
Alors, elle m'a bien surveillée. Mais elle, tout au long du parcours, elle m'a affirmé que ça ne marcherait pas. Que les taux n'étaient pas suffisants. Que l'endomètre n'était pas de la bonne taille, que les follicules grossissaient pas comme il fallait. le jour de l'insémination, elle m'a dit ça ne marchera pas.
Ah ben dis donc, en plus super pour le moral quoi.
Voilà, c'était pas ouf. Alors là, je suis allée un peu vite, mais en gros, le cycle suivant, on a commencé. Les piqûres dans le ventre, etc. Tout d'un coup, elle me dit, bah, faut augmenter, parce qu'en fait, ça monte pas assez. Et je crois que ça a mis 17 jours. J'ai eu 17 jours de stimulation en tout. Ouais. Et elle a fini par booster, par me doubler mes doses. Alors, j'avais commencé avec la plus petite dose, mais elle a fini quand même par bien me doubler les doses. Parce que bah, du coup, elle m'avait fait commander la paillette. Et que la paillette, elle tient 7 jours dans la cuve. J'avais pris une cuve d'azote, ça tient 7 jours. Et du coup, j'avais un peu cette deadline de le 7e jour, il faut implanter, sinon mon sperme est mort. Quoi. Ouais, j'ai dépensé 1 300 € pour rien.
Ouais.
Voilà.
Et d'ailleurs, en parlant de cette paillette, on n'en a pas reparlé, mais Cryos, t'as réussi à faire un choix rapidement ou
Ça, alors, ça n'a pas été si compliqué. Clairement, on va dire que j'ai fait un premier tri purement physique. Alors, non, le premier gros critère, c'est que je voulais que le donneur ne soit pas anonyme.
D'accord.
Moi, je voulais offrir la possibilité à mon enfant, s'il le souhaite un jour, rencontrer le donneur. Entrer en contact. Donc ça, ça a été le premier critère. Le deuxième critère, c'était caucasien, parce que bah, je suis partie du principe que moi, je suis toujours sortie avec des mecs caucasiens et que moi, je suis blonde aux yeux bleus, tant qu'à faire. Ça me ferait kiffer d'avoir un petit blond aux yeux bleus, quoi. Et ensuite, bah, voilà, j'ai sélectionné, donc il y a pas mal de photos, en fait. Il y en a plein qui sont avec photos, donc j'ai choisi une photo, deux photos, trois photos, quatre photos qui me plaisaient. Et ensuite, je suis allée décrypter tout le profil du donneur. Le critère qui m'a permis de décider, c'est la génétique. Parce qu'on a toutes les infos génétiques du donneur. De quoi sont décédés les parents, les grands-parents, etc. Et j'ai sélectionné celui où il n'y avait rien. Genre, que dalle, ils sont tous morts vieillesse, tranquille.
Ouais.
Il n'y avait pas de cancer, il n'y avait pas d'AVC, il n'y avait pas d'Alzheimer. Voilà. Entre les deux derniers, c'était celui qui avait rien que j'ai choisi.
Ok. Oui, ça compte. Enfin, je pense que c'est effectivement peut-être un des critères les plus importants. Enfin, en tout cas pour moi, ça aurait été un des critères les plus importants, je pense. Le côté maladie et génétique. Enfin, voilà.
Bah, c'est-à-dire qui t'a choisi, tu vois, entre.
Mais bien sûr, on te laisse le choix. Je dirais à un moment donné, voilà, t'aurais pas le choix, bah tu le ferais pas.
Là, tu l'as. Exactement.
Et donc, 7e jour de cuve pour la paillette.
Ouais, c'est ça.
Insémination.
Ben ouais. Du coup, 48 heures avant, elle me dit de déclencher. J'étais chez une copine, pour la petite histoire, on était dans son jardin autour d'un grand feu de joie. Et c'est elle qui m'a fait ma dernière piqûre pour déclencher. Et on s'est dit, ben voilà, c'est peut-être le premier jour du reste de ma vie. Et donc, je suis allée le 2 jours après, donc à 11h, enfin 36h, je crois, après, faire l'insémination. Et donc, c'est quand même un grand moment où elle sort la paillette, la petite paille là, de sa grande cuve. Et elle te dit, réchauffez-les, mettez-les sous le bras. Franchement, juste l'image de te dire, tu te mets du sperme sous le bras à réchauffer, c'est du délire. C'était quand même un peu du délire.
Oui.
Et puis bah c'était parti, insémination, et encore une fois elle me dit vu les taux, on n'y croit pas trop, hein. Donc voilà.
Mais t'avais, enfin au niveau de ton suivi, t'avais combien de follicules matures?
Ah, si je dis pas de bêtises, alors follicules matures j'en avais au moins 3 ou 4, mais j'avais plus d'une dizaine de follicules
de chaque côté.
De chaque côté, ouais.
Et 3 ou 4 matures.
Ouais,
c'est risqué.
Et ben en fait, à aucun moment elle ne m'a dit potentiellement ça fait des grossesses multiples. Et c'est au moment de la stimulation qu'en fait j'ai demandé beaucoup d'aide aux filles sur le groupe de Maman Solo. Il y en a quand même quelques-unes qui se connaissent très très bien en taux, qui connaissent bien le jargon et qui ont commencé à me dire attention. Elle est réputée pour faire des grossesses multiples. Elle gère très mal ses taux. Clairement, là, t'es bien, en fait. Tes taux sont très hauts, même. T'as tant de follicules. Ils peuvent encore maturer jusqu'à la fin.
Ouais.
Méfie-toi, quoi. Et bah sauf que moi, j'étais dans le process, quoi. J'étais dans le process. Je pense que je réalisais pas trop. Je pense que j'ai été assez naïve, en fait, sur le truc, en me disant, bah, de toute façon, moi, je vais avoir un enfant. Ça va marcher du premier coup. Et je me suis mis bille en tête là-dessus, en mode, j'en aurai un.
Oui.
Je pense que j'ai pas trop réalisé ce qui se passait.
Ouais. Et puis, c'est vrai que sur une première tentative, tu te rends pas compte, en fait. Même si t'as de l'aide des gens autour, toi, tu te dis, oui, bon, bah, et puis en plus, t'as envie de croire qu'elle sait ce qu'elle fait.
Mais complètement.
Donc tu te rends pas trop compte. Je pense que c'est à force de faire des essais que tu commences à comprendre, à lire les taux, ouais. À savoir décrypter tout ce jargon.
Mais c'est ça. Et puis elle arrêtait pas de me dire que ça ne marcherait pas. Donc, si tu veux, l'option grossesse multiple, pour moi, elle y était pas, quoi. Effectivement, elle sait un minimum ce qu'elle fait, cette dame, quand même.
C'est censé être son métier. Enfin, tu me diras, son métier, c'est pas la fertilité. C'est pas la PMA. Son métier, non. C'est la gynécologie.
C'est ça. C'est voilà. Ça.
Ok, et donc, première insémination,
alors j'étais sous progestérone, sous truc, sous machin, donc j'ai eu tous les symptômes comme toutes de grossesse, et puis, j'ai pas tenu, hein. J'ai pas attendu 14 jours, j'ai commencé à faire mes tests de grossesse à J9, et en fait, j'ai tout de suite eu une petite barre, mais on sait que ça peut être des restes d'ovitrelles.
Oui, tout à fait.
Et donc, je m'étais dit, je commence à J9 et je vais voir si à un moment donné la barre disparaît, ben, je saurais que c'était de l'ovitrelle, sauf que la barre n'a jamais disparu.
Donc, grossesse du premier coup.
Grossesse du premier coup. Mais là, je me dis, ben voilà, j'avais dit moi. J'aurais un bébé du premier coup. Voilà. Donc, à J14, j'ai quand même fait ma prise de sang qui s'est révélée positive. Et j'ai refait à J16 et je crois qu'elle, je l'ai revue. Elle m'a donné un rendez-vous, genre j'étais à 3 semaines de grossesse.
Oui. Oui.
Mais clairement, mes taux étaient normaux. Enfin.
Te paraissais normaux.
Mais un taux n'est pas forcément révélateur d'une grossesse multiple. Et ils étaient dans les normes classiques, quoi.
D'accord, ok. Non, effectivement, un taux n'est pas forcément révélateur. Malgré tout, quand le taux est élevé, on peut avoir des doutes.
Ouais. Alors, je sais pas, peut-être qu'avec 3.
Moi, j'avais 3. Mon taux était 2 fois plus élevé que pour ma fille au même moment.
Ah ouais, ouais.
Mais après, effectivement, et c'est la première chose qu'on a dit à ma belle-mère, ça veut rien dire. Et nous, on pensait vraiment que ça, enfin voilà, que c'était bébé, c'était implanté un peu plus tôt, c'est tout.
C'est ça, la naïveté.
La naïveté. Donc voilà, oui, bébé, c'était implanté, oui, bien, bien, mais pas tout seul.
C'est ça. Voilà.
Et alors du coup, parce qu'elle avait quand même bien conscience que ton projet, c'était de la maternité solo, on est d'accord?
Complètement.
Ok. Bon, bref, pardon. Et donc, ouais. Tu la revois 3 semaines plus tard?
Ouais, je crois que c'était 2 ou 3 semaines après...
Après le test, donc t'étais à... Oui, 2 ou 3 semaines.
Bah non, parce que 2 semaines, j'ai fait la prise de sang, donc oui, ça devait être 3 semaines après l'insémination.
D'accord, ok. Donc, 1 semaine après la prise de sang, ok.
Ouais.
À ce moment-là, elle te fait une écho... Bon, en même temps, on voit rien, 3 semaines.
Alors, je crois qu'on voit quand même le sac.
D'accord, ok.
Je sais même pas si c'est le sac, mais il y a... Comment ça s'appelle? Un nom bizarre.
La vésicule vitelline.
Je crois que c'est ça. Je crois que tu le perçois à ce moment-là.
Ouais, d'accord, ok. Et elle te fait une écho?
Elle me fait une écho intravaginale, ouais.
Et alors?
Et donc, on voit le fameux petit sac. On se dit, youpi. Puis elle tourne, elle dit, paf, bon, c'est bon, il y a bien un sac. Elle dit, mais vous allez revenir dans 1 semaine parce que je ne sais pas si j'en ai pas aperçu un deuxième. Ok. Je pars avec ça en me disant, bon, de toute façon, je commence à la connaître, vu le sérieux de la nana. Hein ?
Ouais. Ça se trouve, elle a vu 2 fois le même.
Non, mais c'est ça. En gros, je commençais déjà à plus trop lui faire confiance. Et puis... J'en rigole un peu avec mes copains. Et puis, 1 semaine après, je reviens et elle me dit, bon, c'est bon, donc il y a bien toujours un premier sac. Ah bah, c'est bon. Ouais, c'est bien ça. Il y a un deuxième. Et là, oh, bordel.
C'est pas le même projet.
C'est pas du tout la même. Et puis là, elle bouge et elle me dit, ah bah, il y en a 3. Là, je l'ai regardée, je dis, mais c'est une blague? Non, il y en a 3. Oh, putain. Et j'ai, en fait, je pense que j'ai eu un instant de choc.
De sidération.
De sidération complet, quoi. Genre, c'est une blague. Et là, je me tourne enfin vers l'écran et je vois les 3 sacs. Et ouais, il y a 3 bébés, quoi. Enfin, il y a 3-5, en tout cas. Et là, en fait, je sens qu'elle monte en stress.
Sans blague. Ah, j'ai peut-être fait un petit peu une boulette.
Ouais, j'ai peut-être un peu merdé. Et alors, je sais plus si c'est à ce moment-là, mais je crois qu'elle a commencé à me parler de réduction embryonnaire.
Tout de suite, ouais.
Ouais. Mais en me disant, bon, on précipite pas, on va se revoir pour recontrôler, s'assurer qu'il y ait des cœurs, qu'il y ait machin. Ça s'arrête souvent tout seul. Enfin, il y a des cœurs qui s'arrêtent souvent tout seul dans ces cas-là. Donc, pas de panique. Je dis, oui, mais bon, enfin, quand même, ça se passe comment, une réduction, c'est quoi? Et donc, elle me dit que ça se passera à l'hôpital femme-mère-enfant de Lyon. Mais que pour le moment, faut qu'on se revoie pour vérifier. Et on s'est revus et il y avait bien 3 cœurs.
Ok, donc si les cœurs étaient visibles, c'est que t'étais à 6 semaines.
Ouais, je crois que c'était 6 ou 7.
Ouais, 6 ou 7, c'est ça.
Ouais.
Ok, je suppose qu'entre le moment où tu le découvres et le moment où vous êtes revus, ça tourne quand même bien dans ta tête, quoi.
Je pense que j'ai ri nerveusement pendant 2 heures.
Oh putain, tu m'étonnes.
Au temps de rentrer chez moi, j'ai appelé ma mère. Je dis, putain, maman, il y en a 3, quoi. Elle y croyait pas. Enfin, comment tu veux croire un truc pareil, en fait?
Mais non, mais c'est sûr, c'est tellement...
Comment tu veux croire un truc pareil, quoi? Et tout de suite, en fait, tout de suite, ma mère, non, mais Claire, c'est pas possible. Je dis, mais non, c'est pas possible. Ben non. Comment tu veux que j'élève 3 enfants seule? C'est ça, quand t'es en couple, je veux dire, t'as 2 paires de bras, en fait.
Oui. Mais surtout 3 enfants seuls qui auront le même âge. Déjà, enfin, tu vois, c'est... Enfin, pour le coup, je sais ce que c'est. Il y a des gens qui le font. Je sais que je suis des personnes qui sont maman solo de triplé et je suis. Mais elles ont une admiration. Mais,
ah non, mais, voilà. c'est clair. Mais c'est clair. Et en fait, tout de suite, il y a eu l'idée de c'est pas possible.
Ouais.
C'est pas possible, mais je me laisse le temps. Il faut que j'y réfléchisse. Il faut que j'envisage l'option, quand même. Ouais. Je suis rentrée chez moi. J'étais en coloc à ce moment-là et du coup, j'avais tous mes colocs. Et là, je dis attendez. Là, je vais m'ouvrir une bière et je vais fumer une clope. Ok. Il faut que j'accuse le coup, là. Il faut que j'accuse le coup. Et genre, ouais, encore une heure de rigolade en mode « Haha, mais quelle drôle de blague, mais quelle drôle de blague !» Et en fait, je pense que ma décision a été prise à ce moment-là.
Ouais. Oui, oui, mais après, il y a un moment où tu redescends et où, effectivement, tu te rends compte que c'est possible, c'est pas possible. Enfin, tu le dis toi-même. Enfin, en plus, t'étais en coloc, donc déjà, le changement de malade qui se profile.
Le délire. Je me dis, attends, faut que je vire tout le monde de la coloc, que je paye toute seule la maison, que... Non, mais non, en fait, non. C'est,
ouais. Non, c'est... Ouais, c'est un projet.
Et en fait, moi, ce qui me dérangeait le plus là-dedans, finalement, c'était même pas est-ce que je serais capable ou pas, c'est l'affection, l'amour que je projette, que j'ai toujours projeté sur un enfant, sur un seul enfant, d'être complètement dispo... De pas laisser pleurer, de toutes ces choses-là, ça vole en éclats, en fait. Tu dis, mais en fait, si t'en as 3 et que t'es seule, ça va être, en fait, ça va être la crèche, là, tu sais, où t'allais, je voyais les 3 couffins avec 3 bébés qui hurlent en attendant la bouffe, quoi. Et à quel moment je peux avoir cette espèce de parentage proximal que j'espère en ayant 3 enfants, quoi. Ça marche pas.
Seule, en ayant 3 enfants.
En ayant 3 enfants seuls. Ça marche
déjà
pas.
3 enfants à 2, le parentage proximal, il y en a toujours un qui arrive pas. Enfin, il y a toujours un de côté, entre guillemets. Ouais. Alors après, il y a peut-être des gens qui arrivent. Moi je sais qu'on n'y est pas.
Ouais.
Mais là, seul. Mais en plus de ça, au niveau nervosité, mais non, t'es pas disponible, hein, soyons clairs.
Avec le recul, mais quel bon choix j'ai fait. Je vois pas comment j'aurais pu tenir le choc.
Bon, en tout cas, elle te laisse... enfin, tu te dis, et t'as le bon réflexe de te dire, je me laisse le temps. Parce qu'en vrai, tu l'avais le temps, parce qu'une réduction, ça ne se fait pas dans les premières semaines.
Et non.
Et c'est ça, voilà. C'est l'angoisse, et c'est ça que je trouve hyper important de savoir, parce que en fait, enfin moi, c'est ce qui m'a été, c'est clairement ce qui m'a fait faire le choix de ne pas réduire.
Ah ouais.
Ouais, j'ai, en fait, de sentir les bébés bouger, de cohabiter avec jusqu'à la 16e semaine. Non, c'est pas possible. Et puis bon, on racontera l'après, mais c'était... Et en fait, moi, mon choix, il s'est fait à, je dirais, à 12, 13 et ça. Où là, j'ai dit, non, je réduis pas. Je peux pas, en fait. Ils sont là.
C'est... Mais ouais, je comprends.
Pardon, je vais un petit peu... J'ai mis la charrue avant les bœufs. Ouais. Donc, je suppose que quand tu la revois, et que donc tu vois les cœurs et que les trois cœurs vont bien. Alors on sait très bien que jusqu'à, surtout sur les grossesses multiples, jusqu'à 12 semaines, même 15 semaines, ça peut encore tout basculer.
Tout peut arriver, ouais.
Tout peut arriver, mais qu'est-ce qu'elle te dit là? Elle t'en parle de cette fameuse réduction, enfin?
Voilà.
Et vraiment donc, dans le détail, j'entends.
C'est ça. Donc en fait, ce qu'elle m'explique, c'est que une réduction, ça se fait pas avant 11-12 semaines de grossesse, et que elle va me faire un courrier pour le gynéco de l'hôpital de Lyon, voilà, et que il faut que je prenne rendez-vous pour parler réduction avec eux. Je saurais pas te dire si elle m'explique un peu plus en détail, je suis même pas sûre. Mais par contre, ce qui est très clair, c'est qu'elle me dit bon, alors là, il va falloir assurer nos arrières. Donc, on va dire que vous avez été en Espagne, vous avez fait une insémination en Espagne, et que c'est moi qui ai récupéré votre dossier derrière. Bon.
Okay.
Et là, bah oui, en fait, vas-y.
Tu vois, toi.
Bah, vas-y, parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Moi, je peux pas avoir trois bébés. Il faut que ça marche, quoi. Faut que ça passe. Je te raconte pas le stress d'arriver face à un médecin, tu viens le voir pour faire enfin une réduction embryonnaire, et t'arrives avec un énorme mensonge sur la façon dont ça a été fait, quoi. Là, tu te dis, mais s'ils captent, ça se trouve, ils vont refuser. Enfin,
je sais pas, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu te dis ça. Je suis pas sûre qu'ils auraient refusé. Par contre, je pense que c'est pas la première. Et je pense qu'elle est connue.
Eh ben non, parce qu'à ce moment-là, elle me dit, enfin, quand, donc, au rendez-vous où elle me fait le courrier, elle m'explique que elle me dit, ah ben dis donc, c'est la période, parce que j'en ai d'autres là. Elles en ont trois aussi. Et puis là, juste avant vous, j'en ai vu d'autres, elles en ont quatre. Et tu te dis, mais putain, mais c'est pas possible, mais c'est une vaste blague en fait. En fait, tu t'es nulle quoi. T'es mauvaise.
Ouais.
T'es mauvaise, comment tu fais? Comment tu fais pour faire des grossesses multiples à répétition comme ça quoi?
Ouais.
Bah, ça montre tout son sérieux, hein.
Bien sûr.
Je me rappelle une fois, je rentre dans son cabinet, elle travaille que sur fiche, elle n'a pas d'ordinateur. Et puis, elle commence à écrire, elle avait une nana au téléphone, elle commence à écrire, en fait, la nana, je pense, lui donnait des taux. Donc, elle note dans le carton, je lui dis, c'est pas le bon carton, c'est le mien, ça, c'est mon carton, là. Et tu te dis, mais
voilà.
Elle se plante tout le temps, il n'y a que des trucs comme ça, quoi. L'hygiène, je t'en parle pas, enfin, bref, je suis partie un peu dans d'autres trucs, mais voilà. C'est juste pour dire sérieux du personnage, et c'est là où, en fait, je me dis, putain, mais j'ai été... ouais, j'ai mis des œillères, quoi.
Donc, aveuglé, ouais. Par le projet. Mais, enfin, on en parlera peut-être plus tard, mais pourquoi personne ne dénonce cette femme?
Parce qu'elle nous permet d'accéder à la maternité.
Ouais, mais dans quelles conditions, quoi?
Ben ouais, mais tu vois, alors après, j'ai pas cherché plus loin, mais si le gynéco suivant, il est à 4 heures de route, c'est pas la même, parce que faut faire des allers-retours pour les échos, le comptage de follicules, etc. Là, elle était à 40 minutes, quoi.
Ouais, mais bon, une stimulation, c'est pas rien, c'est pas neutre hein, pour le corps. T'imagines si elle surstimule systématiquement, enfin...
Ouais. Ben moi, après, c'est là où je me dis, c'est aussi ma faute, parce que j'aurais pu dire non, et je l'ai pas fait.
Alors, je pense qu'il ne faut pas se culpabiliser. Je pense que, clairement, quand tu... Enfin, encore une fois, tu étais novice. Et même si tu n'es pas novice et que le projet, il est là, il est ancré et qu'effectivement, comme tu le dis, il y a 40 minutes de route. Mais une fois que vous êtes X à vous être fait... Enfin, avoir pris ce risque et à avoir dû prendre d'autres risques liés à son incompétence, je sais pas. Je me dis... Enfin, je sais pas ce que j'aurais fait. Je peux pas te dire, mais... Je pense que je sais pas. Je pense que je me serais dit, j'aurais pas été à l'aise avec le fait de dénoncer, mais en même temps, je me dirais, c'est pour protéger les autres, quoi.
Alors, la dénonciation entre guillemets, elle se fait sur les réseaux. C'est-à-dire que dès que quelqu'un met un message en parlant d'elle, je peux te dire que toutes celles qui y sont passées mettent un gros trigger warning, attention, ouais. Quoi. Attention. Je discute encore avec une nana qui est encore en parcours avec elle. Je lui ai dit, méfie-toi, ouais. Ne lui fais pas confiance concernant les taux. Tu vas plutôt demander sur le groupe à un tel et un tel qui s'y connaissent grave, qui ont toutes les compétences en fait pour analyser tes taux. Mais si elle te dit tes taux sont pas bons, les follicules et l'endomètre, le machin, ça va pas, demande aux filles. Parce qu'en fait, ben voilà quoi, elle fait des grossesses triples, quadruples.
Ouais.
À un moment donné.
Et puis, enfin voilà, on va reparler de la réduction, mais ça engage toute la grossesse quand même, donc c'est pas neutre quoi.
Ah, c'est pas neutre, non.
Donc, c'est pas neutre physiquement et émotionnellement.
Mais c'est ça.
Donc, donc, du coup, toi, tu te présentes avec ton énorme mensonge à FME.
C'est ça.
Ça passe ?
Ça passe. En fait, il pose pas tellement de questions. Il lit le courrier, où elle écrit également que je suis dévastée par la nouvelle. C'est pas vrai, en fait, je suis pas dévastée. Je suis pas dévastée, mais en fait, elle met ça pour que ça passe auprès de la commission. Parce qu'il y a une commission qui se réunit pour décider si oui ou non la réduction est acceptée. Il me fait l'écho, tout le monde est là, tout le monde est en bonne santé, et donc il m'explique ce que c'est que la réduction. Et le premier truc qu'il me dit, c'est au niveau éthique, on ne fait pas de 3 en 1, on fait que du 3 en 2. C'est-à-dire qu'on enlève un seul fœtus, parce qu'on considère qu'éthiquement, vous, enfin, qui que vous soyez, on laisse les deux, on n'enlève pas 2 sur 3, quoi. Et j'ai su après que ça se faisait, en fait.
Ah oui ? Ah non, moi, on m'avait dit pareil, de 3 à 2. Après, peut-être que si le contexte émotionnel est pas, tu vois, où c'est vraiment trop, trop compliqué qu'ils l'estiment, peut-être qu'ils font 3 à 2.
C'est ça.
2, 3 à 1, pardon.
Ouais, puis je pense que ça dépend des médecins et ça dépend des commissions. Mais je connais des nanas qui ont fait la réduction de 3 en 1. Mais en tout cas, moi, j'avais pas, même pas envisagé cette option parce que j'avais bien compris que c'était de 3 en 2. Et voilà. Donc...
Tu me diras, oui, je connais aussi quelqu'un qui a fait de 3 à 1, mais je crois qu'il y avait des problèmes médicaux les enfants.
Ouais,
ok. Ok, voilà. Et donc là, il t'explique que c'est de 3 à 2. Il t'explique comment ça se passe, comment ça se déroule.
C'est ça, il m'explique comment ça se déroule, quels sont les risques. Donc, ça se fait entre 11 et 12 semaines, pas avant, parce qu'on attend toujours au cas où la nature fasse son choix. C'est-à-dire qu'il y ait un embryon ou plusieurs qui se stoppent. Et que de toute façon, il faut qu'il soit d'une taille suffisante, puisque c'est comme pour une amniosynthèse. En fait, il va passer par le ventre avec une grande aiguille pour aller injecter le produit létal directement dans le cœur du fœtus. Donc, il faut quand même qu'il y ait un minimum de taille pour pouvoir le faire. Et il m'explique donc les risques qui sont que bah, ça peut créer des fausses couches, etc. et que je peux tout perdre. Donc, il y a aussi cette épée de Damoclès de dire, bon, ok, je veux réduire, mais potentiellement, je vais tous les perdre.
Oui, sauf qu'en face, tu as aussi les chiffres de la grossesse triple, où de toute manière, le risque, il est latent jusqu'à la fin de la grossesse.
C'est ça. C'est ça. Donc, voilà.
Ouais. Et alors, c'est entre guillemets chouette si à FME ils arrivent à faire une réduction à 12 semaines. Je sais qu'à Bordeaux il y avait des délais en fait entre le moment où tu dis ok, je suis ok pour la réduction et le moment où ils arrivent à te caler sur une date, ben en gros ils comptaient 2 semaines de plus quoi.
Ah ouais, donc tu vois, c'est pour ça que je parle de semaines de grossesse, hein, pas d'aménorrhée, mais.
Ah oui, donc tu as 12 semaines de grossesse, donc c'est ça, ça fait 14 SA. Et c'est pour ça que je te disais, moi c'était 16.
Ouais.
La prévision. Mais ouais, là, c'est plus la même projection, c'est des fœtus. Enfin, tu vois,
C'est clair. Enfin, moi, j'ai commencé à les sentir à 17, quoi.
Moi, j'ai senti à 12.
Oh là là.
Donc, tu vois le truc, quoi. Et ouais, quand je les ai sentis bouger, j'ai. Non, ça a été. Enfin, tu vois, ça fait court-circuit dans ma tête. Ouais,
mais oui, puis voilà, t'étais pas seule, donc les considérations, elles sont différentes aussi. Mais,
bien sûr.
Mais je. Sûr. Effectivement, je pense que si j'avais pas été seule, j'aurais gardé tout le monde. Hein. Enfin.
Ouais. Et effectivement, parce que clairement, ça engage la grossesse. Une amniosynthèse, déjà, on le sait que c'est risqué pour la grossesse. On la fait toujours en connaissance de cause et parce qu'il y a des risques plus forts en fait en face qui amènent à faire cette amniosynthèse. Là, le choix, il t'incombe à toi directement. Donc t'as pas de risque. Tu me disais, tes trois enfants allaient bien. Donc je suppose que il t'a expliqué à ce moment-là que quand les trois bébés vont bien, bah ils font au pif.
C'est ça. En fait, ils vont choisir le plus accessible.
Voilà, exactement.
Et alors, ma crainte, parce que je te dis, en fait, j'ai commencé à sentir à 17, mais c'est pas vrai, parce que le jour J, je lui ai dit, je lui ai demandé lequel il prenait, enfin, lequel il choisissait, et il a pris le fœtus qui était en bas à gauche, et j'étais rassurée, puisque je sentais, en haut à droite, je sentais des bulles, et c'est con, mais en fait, j'avais déjà créé du lien avec celui-là.
Bah, bien sûr.
Et du coup, j'espérais qu'ils prennent pas celui-là, parce que c'est celui que je sens. Et puis tu te dis, bon bah, ok, donc il prend celui-là, je sais pas encore les sexes, mais si ça se trouve, j'ai trois filles, trois garçons, mais ça se trouve, c'est deux garçons, une fille, il est en train, du coup, de tuer la fille, ou de tuer le garçon. C'est con comme considération, mais...
Non, mais attends, à ce moment-là, je veux dire, toutes les considérations sont valables, hein. C'est des choix qui engagent une vie, hein.
Bah, c'est ça.
Et Tu sais, ta grossesse, elle était tricorielle, très amniotique?
Oui.
Donc, ok, trois poches, trois placentas, je précise. C'est hyper important pour la suite parce que dans le cas où il y a des vrais jumeaux qui auraient qu'une poche et qu'un placenta, je reviendrai là-dessus pour expliquer un peu comment ça fonctionne dans d'autres vidéos peut-être.
Ouais.
Dans ce cas-là, le risque de syndrome transfuseur-transfusé est tellement important que des fois, ils suppriment justement les deux vrais jumeaux pour être sûr de laisser la grossesse se dérouler correctement, parce qu'en fait, si tu as un syndrome transfuseur-transfusé sur la paire de vrais jumeaux et que en fait ça engage la naissance, le risque il est aussi de perdre la grossesse.
Et tu vois,
du coup, ils considèrent que c'est un risque et c'est la paire complète qu'ils éliminent, entre guillemets. C'est horrible comme mot, mais oui, voilà.
Ah oui, c'est horrible.
Donc voilà. Bon, pardon. Revenons.
Effectivement, moi, j'ai pas eu ça. Ils étaient. Mais ce qui dit bien que tous mes follicules ont été fécondés, quoi. Ouais. Moi aussi.
Pas tous. T'aurais pu en avoir 4 ou 5.
Ouais, peut-être.
Rappelle-toi. Bref, ça a été efficace, on va dire, et je rigole, mais c'est hyper nerveux parce que vraiment j'ai des souvenirs assez pénibles de cette période-là qui tombait exactement aux mêmes dates, tu vois.
C'est
vrai. Dedans là, en janvier. Donc voilà. Une fois que donc lui t'a expliqué le geste, comment ça se passe que toi t'as acté ta décision, comment ça se passe? Tu dois donc tu t'es passé en commission, tu dois signer quelque chose, t'engager?
Non,
c'est purement oral.
Il y a un rendez-vous psy obligatoire. Pour en discuter. Alors j'ai eu super peur aussi parce que je me suis dit si ça se trouve, malgré tout la psy est liée à eux, est-ce que je peux lui parler vraiment du truc ou est-ce que je me tais? Et finalement elle a même pas abordé en fait tellement la question. La psy servait à bien rediscuter de ce qu'était la réduction et de comment je vivais ça. Comment je vis le fait de faire ce choix là, comment j'envisage ma maternité solo avec deux. Donc c'était un rendez-vous finalement très sympa, c'est obligatoire dans leur
projection.
Et puis je crois que j'avais un autre rendez-vous avec une sage-femme, mais alors je sais plus trop.
Non mais oui.
C'est pas bien important finalement. Enfin voilà.
Et est-ce qu'à ce moment-là il t'explique, parce que moi en fait au moment où on m'a parlé réduction, j'en avais entendu parler, mais enfin tu vois le truc où c'est plus de l'imaginaire qu'autre chose, et je m'étais dit à 4-5 semaines, hop, ils prennent une seringue, ils aspirent l'œuf et puis c'est fini.
Mais c'est, oui.
Voilà, ça c'est ce que je croyais. Et en fait, donc après ils m'ont expliqué effectivement comment se déroulait la réduction, mais une fois qu'ils ont injecté le produit létal au fœtus.
Ouais.
Moi, je m'étais dit, ok, mais comment ils font comment pour l'aspirer quand il fait
15
centimètres ? Et toi, ils t'ont expliqué
ce qui... En fait, effectivement, la question que je me suis posée, c'est-à-dire, pour moi, c'était il sortait un moment, en fait. Genre, une fois qu'il est mort, on l'évacue. Mais pas du tout. Pas du tout, en fait. Le fœtus, à ce stade, va se résorber. Et ils m'ont expliqué qu'il se mélangeait un peu au placenta et qu'il n'y avait plus rien le jour de l'accouchement.
Oui.
Sauf que c'est pas vrai.
Non, oui, voilà. En fait, moi, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Bon, je pense pas qu'on va forcément rentrer dans les détails, mais toujours est-il que tu es enceinte de 3 enfants, tu accouches de 3.
C'est ça.
Après, voilà. Tu me raconteras la suite. Maintenant, je pense qu'on va pas traumatiser non plus trop les gens, mais je pense que c'est quand même important de savoir où on met les pieds quand on se retrouve confronté à des grossesses multiples et même hyper multiples.
C'est ça.
Et donc, du coup, le jour de la réduction se présente.
Ouais.
Et toi, t'es toujours assurée de ta décision
Complètement.
Ok, pas de doute là-dessus.
Aucun doute. Aucun doute. Je suis impatiente. Parce que jusque-là, c'est difficile, en fait, d'investir 2 bébés sur 3. Je savais pas, en fait, je l'ai su au moment où il a fait l'acte, lequel il a enlevé, lequel il a arrêté. Et du coup, j'étais impatiente, en fait, de pouvoir mettre ça derrière moi, tout simplement.
Ouais, je comprends. Et comment ça se passe? Est-ce que pendant l'acte, parce que je sais qu'ils font ça sous écho.
Oui.
Ils ne te montrent pas l'écran?
Non.
Ok. Non, mais parce que, enfin, pour le coup, moi, je suis pas allée jusque-là, et j'espérais qu'ils ne fassent pas ce genre de choses. Mais
Okay. C'est clair. Ouais, ouais. Je pense qu'ils l'ont laissé au moment où, en fait, ils font comme une micro-écho avant le geste, où ils regardent de nouveau, tu vois, au cas où il se soit passé quelque chose dans les, je sais pas, quelques jours précédant l'intervention. Mais ensuite, t'as un champ stérile, puisque de toute façon, enfin, il faut qu'ils, alors c'est pas, on n'est pas au bloc, mais il y a quand même une salle qui est un minimum stérile, etc. Puisqu'ils injectent quand même une aiguille dans le ventre.
Donc, ben, bien sûr, bien sûr.
Soi-disant, ils endorment le ventre. Alors, soit ça n'a pas marché sur moi, soit c'est pas vrai. Mais ouais, ça fait très très mal. Clairement, ouais, ça fait très mal. Ils ont essayé de me mettre du gaz, ça n'a jamais marché. Donc ouais, j'ai vraiment souffert parce que bah, il faut qu'il arrive à viser quoi. Il faut qu'il vise le cœur et pendant ce temps, bah il triture un peu, il trifouille un peu le ventre. Je crois qu'ils ont replanté l'aiguille deux ou trois fois.
Oh mon Dieu.
Ouais, franchement, le passage. Alors autant le passage du ventre ça va, mais c'est le passage où là tout d'un coup on sent bien que ça, c'est l'utérus.
Ouais, quand ça touche à l'utérus, c'est douloureux.
Ah, franchement, c'était horrible. Et une fois qu'il a trouvé l'emplacement, ça a été hyper rapide. C'était fini en 10 secondes, quoi. Voilà. Et puis ensuite, bah, on m'a remonté en chambre, hein, puisqu'il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a rien. Et j'ai eu un contrôle écho, parce qu'en fait, il y a un grand risque à ce moment-là de perdre un ou plusieurs. Donc, j'ai eu une nouvelle fois une écho pour vérifier donc, que bah, celui qui était arrêté était bien arrêté et que les deux autres étaient encore en vie. Et effectivement, ils étaient encore en vie. Et donc, je suis rentrée chez moi et si je dis pas de bêtises, j'ai eu un nouveau contrôle 15 jours après. Mmh. Bah, pendant 15 jours, tu te demandes si t'as pas perdu tes bébés, quoi, parce que le risque est là. Mmh. Et tout au long de ma grossesse, à aucun moment, j'ai été sereine, en fait. Après une écho, j'avais une semaine ou deux où ça allait. Je savais qu'ils étaient là. Et les 10-15 jours qui me restaient avant l'écho suivante, bah, je me disais, bah, ça se trouve, ils sont morts, quoi. Ça se trouve, j'en ai perdu un. Parce que oui, je sens toujours des mouvements, mais tu sais pas lequel c'est. C'est
non.
C'est un peu le bordel. Ouais. Et il y a toujours ce stress. En fait, c'est tellement médicalisé depuis le départ que... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas réussi à être sereine, quoi. À être pleinement sereine sur tout le monde. Et voilà.
Mais oui, parce que si je me trompe pas, le suivi reste celui d'une grossesse hyper multiple.
C'est ça.
Donc du coup, c'est hyper, hyper, hyper médicalisé. Et effectivement, le risque, quand on touche à l'utérus, l'utérus se rebelle et il contracte. Donc le risque, il est d'évacuer la grossesse.
C'est ça.
Voilà. Ça, c'est mécanique. Hein. Donc il y a toujours des risques. Alors je crois qu'ils sont pas... Alors, je sais pas sur une réduction, mais je crois que sur une amniosynthèse, c'est... peut-être de l'ordre d'en dessous de 10%.
Ouais.
C'est pas non plus des... Enfin, ça paraît minime.
Ça augmente le risque de toute façon. Donc,
voilà, exactement.
Parce qu'on sait que quelle que soit la grossesse, tout peut arriver.
C'est ça.
À n'importe quel stade. Et quand tu connais quelques histoires, t'as toujours ces trucs-là en tête. Et quand en plus tu rajoutes un geste invasif et qui augmente ce taux de risque, bah t'es pas serein, quoi.
Mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure... Pourquoi ne pas la signaler? Je comprends, hein, y a plein de raisons, ouais. mais moi, pour ça, je lui en aurais tellement voulu d'avoir fait prendre des risques à ma famille complète, parce qu'un deuil, il est à gérer par tout le monde.
Complètement.
Que je j'aurais pas, je voilà. Là, ça, tu touches à ma famille, je laisse pas passer, quoi.
Ouais.
Donc, bon, bref.
Alors, moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'avais discuté avec une nana, alors je crois qu'elle avait des triplés, pareil, et du coup, pareil, HFME. Et elle était super emmerdée parce qu'il demandait des comptes rendus complets, des dossiers complets, ce qui n'avait pas été le cas à mon époque.
Ils doivent avoir un doute.
Et je pense qu'en fait, ils ont déjà... Enfin, à mon époque, ils avaient des doutes et que maintenant, ils ont renforcé, entre guillemets, les surveillances. Ils savent que ça vient d'elle, quoi. Et je pense qu'ils ont très bien compris le truc.
Bah, surtout si les courriers de réduction viennent systématiquement d'elle. Enfin, il y a un moment, tu sais, ça met la puce à l'oreille.
Bizarre quand même.
C'est bizarre, elles sont toutes passées en Espagne et elles passent toutes par le même médecin après.
Mais c'est ça. C'est franchement... Enfin,
voilà.
À un moment donné, tout le monde est au courant. Et c'est pareil, pourquoi eux la dénoncent pas?
Oui, mais peut-être parce qu'ils attendent d'avoir du dossier.
Peut-être.
Je pense que ça se fait pas comme ça, tu vois. Enfin, c'est... Ouais. Ouais. Et donc, du coup, ta grossesse se déroule, bon an, mal an, de façon très, très médicalisée.
Ouais.
L'accouchement, comment ça se passe?
Alors, finalement, je suis revenue à mon idée d'accouchement physio.
Avec les jumeaux.
Ouais. J'y crois dur comme fer. je suis suivie par un sage-femme. Alors, entre-temps, j'ai déménagé quand même. Je suis revenue vivre en Charente-Maritime, ma région d'enfance. Et à ce moment-là, je squatte chez mon père dans une petite maison. Bref, c'est un peu l'angoisse. Je cherche un logement que je ne trouve pas. C'est hyper compliqué dans la région. Et je prends un sage-femme en libéral qui fait des accouchements à domicile.
D'accord.
Je sais très bien que je ne pourrais pas accoucher à domicile. Et je l'accepte pleinement. Par contre, je le choisis lui en me disant il va m'accompagner dans le projet d'un accouchement physio. Même si je me doute très vite que ça va être compliqué avec l'hôpital. Parce que je suis quand même obligée d'accoucher dans un hôpital de niveau 2 ou 3, ils étaient, je sais plus.
Je pense que c'est niveau 3 parce que tu avais une grossesse triple initiale.
Mais bon. Je crois que non, c'est même pas pris en compte ça.
Ah d'accord, ok.
Mais c'est, voilà, il faut qu'il y ait un service de réa néonate quand même. En fait, les plans ont vite... mes plans d'accouchement physio ont vite sauté puisque à 30... 6, j'ai eu une écho, et en fait, ils ont commencé à voir que le placenta faisait plus très très bien son job, et que j'en ai un qui grandissait plus très bien. Donc là, il m'a dit, ça va être déclenchement la semaine prochaine. Ah ouais, d'accord, donc mon accouchement physiologique, c'est foutu, je ne pourrais rien négocier du tout.
Ah, il y a des choses, mais bon, c'est pas, ouais. C'est sûr que c'est pas le même projet.
Et non. Donc, après, je t'avoue que arrivé à 36 semaines, 36 SA, j'en pouvais plus. C'était qu'on me les sorte de là, quoi.
Avec des jumeaux, moi déjà à 32, bon, après c'était des triplés, mais à 32 avec les triplés, mais c'était intense. Et j'admire, là, je suis sur un groupe de triplés, et il y a une nana, elle a tenu jusqu'à 37 plus 4,
mais
ou 38,
non.
ou 38 plus 4, je sais plus, mais 37 ou 38, avec des triplés, j'étais là, oh!
Mais tu marchais encore?
Non, mais je sais pas si elle marchait encore, mais je lui vois un culte. Chapeau.
Ah non, mais incroyable. J'avoue, ouais. Incroyable.
Donc, mais c'est sûr, ça pèse, en fait, de bébé, de placenta, de poche des os, c'est lourd, quoi, c'est lourd.
C'était hyper lourd.
C'est ça. Et donc, ton accouchement se déroule tout de même correctement, malgré le déclenchement?
Bah non, parce que ça marche pas.
T'as pas l'air de répondre bien au...
Mais alors, du coup, pareil, je finirai là-dessus, je pense, mais j'en parlerai un peu plus tard, mais ça ne marche, mais pas du tout. Je suis restée 48 heures quasiment en déclenchement, et j'ai été ouverte à 3.
D'accord.
Et puis j'avais à peine des contractions, quoi. C'est-à-dire que un premier tampon, un deuxième tampon, et ensuite ils m'ont mis l'ocytocine, et ils avaient beau augmenter les doses... j'avais des contractions, mais pas non plus à hurler, quoi. C'était pas...
T'étais encore dans la seuil de tolérance sommaire. Effectivement, c'était... Bon, tu me diras. Avec un déclenchement, c'est toujours tout biaisé, mais bon.
Ouais. Moi, j'avais entendu déclenchement. Attention, ça fait encore plus mal, quoi. Donc, je m'étais préparée à un truc un peu violent et...
Ça fait effectivement plus mal si les contractions se déclenchent.
C'est ça. Donc, j'avais mes petites contractions, mais tranquille. Et puis, finalement, on s'est regardé. C'est une copine d'enfance qui m'a accompagnée. Et on s'est regardé le reportage sur Nicolas Hulot. Je sais pas si t'as vu ce truc-là. Pour dire l'ambiance, quoi. On était assez perdu, quoi. Voilà.
ça se passait, quoi. Ça se passait.
Ça se passait. Et donc, à 22h30, la gynéco débarque et me dit « Bon, on va partir en césarienne, hein ?» Je dis « Ah, bah non. Ah, non. Bah, je veux pas. »
Mon accouchement physio.
Mais mon accouchement physio, quoi. Je veux bien, la péri, ok, le déclenchement, ok, mais je veux mon accouchement, je veux qu'il sorte de moi, quoi. Pas par moi-même. Et elle m'a dit, je vous laisse une heure. S'il se passe rien, on y va. Bon, évidemment, une heure après, il s'était rien passé. Hein.
Après, des fois, ça passe. Hein. Des fois, tu passes de 3 à 9, tu sais pas comment. Mais
ouais,
bon.
C'est bon. Voilà, pas chez moi.
Non, mais c'est... Voilà, ça, tu peux rien prévoir, de toute manière.
C'est ça.
Donc bon, du coup, je suppose que ça a fini en césarienne.
Exactement. Une heure après, j'étais en... Ouais. Même pas une heure après, ils m'ont mis sur la table et puis c'était parti, quoi. Voilà.
Et alors, comment ça se passe, la vie de maman solo avec des jumeaux?
C'est cool. C'est trop
cool. Ah, c'est hyper rassurant d'entendre ça.
Il y a des phases plus difficiles. Il y a des phases très compliquées, évidemment. Mais c'est chouette, c'est très chouette. Je pense quand même que je suis gâtée, dans le sens où ils sont pas trop pénibles à endormir, tu vois, ce genre de choses. Enfin, moi, ils sont allaités, Donc il se réveille, 14 mois, il se réveille encore la nuit, mais en général, je l'ai fait téter, il se rendorme. Il y en a avec un enfant seul, c'est pas du tout ça, quoi. Enfin, ouais. Donc je pense que je suis assez bien lotie et ouais, et puis je suis dédiée à mon rôle, je suis en congé parental et je compte le rester jusqu'à l'entrée à l'école. Mm-hmm. Et c'est super chouette, franchement.
Ouais, t'en profites à fond, quoi.
Je sais que derrière, ce sera le début de la fin, quoi. Ce sera le début où ils vont partir de la maison.
C'est vrai. Mais t'as encore le temps, quand même.
Ouais, un peu. Mais du coup, voilà, je préfère profiter à fond.
Non, mais t'as raison. Franchement, quand on a la possibilité de le faire et qu'on en a l'envie.
Et qu'on en a l'envie.
Faut pas hésiter. Bien sûr qu'il y a des considérations financières. Bien sûr qu'en France, on n'est pas du tout bien encadré et bien soutenu quand on veut prendre un congé parental, donc c'est compliqué, mais si on a la possibilité de le faire financière et qu'on en a l'envie, franchement,
ben c'est ça,
faut y aller. Et du coup, je t'ai même pas demandé, deux petites filles, deux petits garçons, une petite fille, un petit gars?
Deux garçons.
Deux petits gars.
Ouais.
Alors, Ezra, en vrai, je le savais, hein, mais tu m'as dit quoi les prénoms?
Ezra et Isaac.
Oh, j'adore. Ok, mais écoute, waouh. Enfin, c'est prenant hein, comme histoire. Je sais que ce sera pas facile à entendre pour tous nos auditeurs, et je pense même que ce ne sera pas écouté par tout le monde parce que c'est pas facile.
Ouais.
C'est des décisions qui sont pas faciles. Alors toi, elle paraissait. Et puis, je vais te dire un truc. Le fait que tu sois pas deux et que tu sois une, clairement, de toute manière, la décision, elle s'actait par elle-même presque.
Mais c'est ça.
Enfin, tu vois. Mais c'est vrai qu'on passe par des espèces de montagnes russes à ces moments-là. Déjà, quand on découvre qu'on est enceinte de 3 enfants,
ouais, c'est
que derrière, on envisage la suite, on sait que la vie, elle est complètement chamboulée, il faut tout changer, on change de vie, clairement, on change de vie.
Ah, mais c'est clair.
Voilà, que derrière, on prend des décisions, on passe notre temps à entendre que, en fait, on n'est jamais sûr que la grossesse, elle aille au bout. Donc, finalement, on n'arrive pas forcément à se projeter avec ses enfants, mais finalement, il faut quand même se projeter pour avancer. Enfin, c'est hyper compliqué. Et après avoir des gestes invasifs qui sont confortables pour personne, c'est des grossesses, si on peut les éviter.
Ah bah c'est ça, et voilà. Tu vois, bah, alors c'est con, mais je me suis fait tatouer, j'ai fait un petit tatouage là pour la naissance, et en fait c'est 3 petites barres qui représentent les 3, et parce qu'ils étaient 3 quoi.
Bah c'est ça, en fait c'est ça que moi je me suis toujours dit, et qui m'a fait me conforter à moi dans ma décision, et il n'y a pas de bonne décision, il y a votre décision, votre décision est la bonne, clairement ça il faut rester, voilà. Mais moi je me suis dit, je sais que à vie, je me dirais à chaque fois que je vois les deux, il m'en manque un.
C'est ça. Alors, moi, c'est pas aussi net de à chaque fois que je les vois, je pense qu'il m'en manque un, mais franchement, alors, ok, ils ont que 14 mois et je pense que ça va s'estomper avec le temps, mais souvent, j'y pense quoi. Souvent, je me dis, ça se trouve, c'était une sœur ou un frère qu'ils avaient en plus. Ouais. Et j'espère, alors c'est un peu empirique, mais j'espère que ça les impactera pas, tu vois. Parce que, évidemment, je compte leur expliquer ça. Quand ils seront en âge de l'entendre et de le comprendre, mais il y avait une troisième entité, quoi, et elle est là, et ce bébé, il sera toujours là, et même si je n'ai absolument aucun regret, et que je suis hyper heureuse avec eux deux, il y aura toujours ce truc-là, et merci Doctora, quoi, enfin, tu vois, de créer cette espèce de fantôme... au-dessus de
De créer ce deuil, en fait.
Bah, c'est ça.
Parce que ça reste, à mon sens, un deuil périnatal. Et c'est... Voilà, enfin, faut vivre avec, quoi.
C'est ça.
Je me doute. Et moi, j'en perds aussi ma voix. Bon, en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir bien voulu témoigner autour de ton histoire. Pour moi, ça me tenait à cœur. Ça fait 3 ans que je tiens ce podcast. D'ailleurs, je vais faire une publication d'ici peu. 3 ans que je me dis qu'il faut absolument, en tout cas que moi, je propose mon témoignage autour de la réduction, sachant que je ne l'ai pas vécu,
ouais,
à d'autres podcasteurs, parce que je pense qu'il faut en parler. Ouais. Et il faut informer. Ça concerne une minorité de personnes, mais quand ça nous tombe dessus, on a besoin de savoir où on va pour prendre une décision.
C'est clair. C'est clair.
Et donc pour ça, je t'en remercie, parce que oui, ça va être difficile à entendre pour beaucoup, mais par contre, ça va servir à un petit nombre de personnes qui vont se retrouver dans cette situation-là précisément.
C'est ça. Merci en tout cas pour ton podcast, qui est d'utilité publique.
Je t'en prie, merci, ça fait plaisir. Et puis écoute, je te dis à très bientôt.
À bientôt, Constance.
Comme promis, je vous explique mon cheminement pour en arriver à vous faire cette proposition de soutien via une page Steady. Depuis quelque temps, je réfléchis à comment rentabiliser, si l'on peut dire, le temps investi dans le podcast. Pour être très transparente avec vous, j'y passe presque la moitié de mon temps de travail chaque semaine, soit 20 heures. Ce temps-là est totalement non rémunéré. Les publicités, en début et en fin d'épisode, couvrent une centaine d'euros par mois. J'essaye de trouver le temps de prospecter auprès d'entreprises et de créateurs pour leur proposer d'entériner leur inclusivité en soutenant le podcast, mais je ne vais pas vous mentir, vendre mon travail n'est pas mon point fort. Et puis, Steady m'a contacté en me proposant une formule qui me permettait de ne pas nécessairement avoir à proposer du contenu supplémentaire pour les abonnés, parce que vous l'aurez compris, je n'ai pas du tout le temps ni l'inspiration pour créer des épisodes dédiés. Cela viendra sûrement, mais sur le moment c'était inenvisageable. J'arrive à la limite de ce que je peux produire bénévolement. Alors j'ai rebondi sur cette proposition, et surtout sur vos propositions de soutien financier. Sur ma page Tidy, vous trouverez plusieurs formules de soutien, des plans mensuels et annuels, dont un adapté aux plus petites bourses. Je vous propose de soutenir consciemment le podcast en fonction de vos possibilités. J'ai tout de même pu vous proposer quelques contreparties, notamment celle de pouvoir diffuser un message personnel. Je vous laisse aller découvrir tout cela. Le lien de la page se trouve en bio de mon compte Instagram @lesenfantsvontbienpodcast et je vous le mettrai ce mois-ci régulièrement en story. Vous pouvez aussi le trouver sur mon site internet www.surleportdelalune.com. Votre soutien, quel qu'il soit, est précieux et je vous en remercie infiniment. Vous pouvez aussi donner plus de visibilité au podcast, le partager sur les réseaux sociaux, le noter sur les plateformes d'écoute et faire fonctionner le bouche à oreille. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez, plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.